Schmita.
C'est beau
Mais
pour les Louis Nishmat.
ah oui, alors un instant, je retrouve mes notes. Le chiour, il fait l'Iloui Nishmat Zima Souda Bat Myriam dans le Yorkside, c'est le 15 Iyar. C'est pas encore tout à fait le cas, mais presque. Pardon? C'est les feuilles de quoi? Une feuille blanche? Oui, bien sûr. Il y a trois grands sujets, on verra qu'il y a un peu plus, mais le premier grand sujet, c'est la Shemitah. La Shemitah, c'est-à-dire l'année sabbatique. C'est-à-dire, c'est que les Bnei Israël sont, on parle de la situation des Bnei Israël sur la terre d'Israël. On parle de cela. Et on va nous enseigner qu'en réalité, on n'est pas propriétaire de cette terre. Hachem va dire aux Bnei Israël, en fait, sur cette terre, vous êtes, comme on dit, étrangers résidents, comme Avraham Avinu l'a dit. Et ça change complètement le rapport à la terre, le rapport, du coup, le rapport entre les hommes, parce que il y a des règles qui, justement, suppriment cette différence de catégorie entre les gens qui possèdent quelque chose éternellement, quoi, et les autres. Alors, comment est-ce que c'est présenté dans la Torah? C'est présenté de façon étrange. D'abord, Hachem El Moshe. Hachem parle à Moshe Rabbeinu et il lui parle Behar Sinai, les mots. Il lui parle au Sinai. Pourquoi cette paracha-là de Behar, elle est présentée comme une paracha donc qui a été présentée au Sinaï? Quand on l'entend comme ça, on entend, ah oui, alors cette paracha-là, elle est présentée au Sinaï, mais les autres pas? Alors, c'est très connu. On demande, Ma'inyan Shemitah et Tselar Sinai. Qu'est-ce que le sujet de l'année sabbatique a à voir avec le Sinaï? De toute manière, ok, si Hachem a parlé de cela à Moshe Rabbeinu, ou que Moshe Rabbeinu l'enseigne au Sinaï, il lui parle de quelque chose. Il va se présenter quand? Il va se présenter seulement quand les Bnei Israël seront en Eretz Israël. Entre le Sinaï et l'entrée en Eretz Israël, il y a 40 ans. Et même quand les Bnei Israël vont entrer en Eretz Israël, ils vont prendre 7 ans pour la conquête de la terre. Ils vont prendre 7 autres années pour partager les terres entre eux. À ce moment-là, il va falloir semer, alors labourer, semer, enfin, faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse engranger, pour qu'on puisse moissonner, engranger, etc. Et puis après, tu vas compter 6 années, fonctionnement, disons, normal, standard. Et c'est seulement à la 7e année, on est 21 ans après l'entrée en Eretz Israël. Et on est donc 61 ans après le Sinaï. Donc au Sinaï, on nous parle de quelque chose qui sera actuel dans une soixantaine d'années. Et pourquoi est-ce que pour cette mitzvah, on nous dit que Hachem a parlé de ça avec Moshe, et Moshe avec l'Ebné Israël au Sinaï. Rashi pose la question que tout le monde pose. Ma'inyan Shemitah etzel har Sinaï. Ralo kol ha-mitzvot ne'emru mi-Sinaï. Toutes les mitzvot ont été données au Sinaï. Tout le monde connaît Pirkei Avot, Moshe kibel Torah mi-Sinaï. Moshe a reçu toute la Torah au Sinaï. Donc toutes les mitzvot. Alors pourquoi mettre en évidence que cette mitzvah-là, elle a été donnée au Sinaï. Alors, ça vient enseigner quelque chose de très important. Ma Shmita Nehemra Klalotea Vedikdukea mi Sinaï. On veut nous enseigner ici que de la même manière que la Shmita, avec tous ses détails, tous les détails, comme de quand se passe la Shemitah, comment ça se passe, etc. Dans tous les détails, ça a été donné au Sinaï. Parce que ça ne sera pas répété ailleurs. Donc c'est donné au Sinaï, et puis comme ce n'est pas répété, on ne peut pas dire, on a dit au Sinaï les grandes lignes, et puis le reste et le détail va être donné plus tard. Ce n'est pas possible. Alors de la même manière que le Sinaï, qu'au Sinaï, les Bnei Israël ont reçu tout ce qu'il fallait savoir quant à la mitzvah de Shemitah. De même, Afkulan Nemru Klaloten Vedikdukem Sinaï. Toutes les mitzvot ont été données avec tous les détails au Sinaï. Kach Shnuya Betorat Kohanim. Rashi dit, je m'appuie ici sur ce qu'on appelle Torah de Kohanim, c'est-à-dire sur le Midrash Halakha concernant le Sefer Vayikra. Donc ça, c'est Rashi n'a fait que citer ici. Et alors il dit, venir et lire, il me semble, Shekar Pirusha. Vous voyez la modestie de Rashi, c'est pas? Rashi dit, il me semble que ce Torah de Kohanim, il faut le comprendre de la manière suivante. Pour le comprendre, le fiche l'omatsinu shmitat karkaot, shenishnit barvot moav, bemishne Torah. Dans Mishne Torah, c'est-à-dire dans le Sefer Dvarim, il y a une très très grande quantité de mitzvot qui ont été répétées. Elles ont été répétées, comme on dit, Be'arvot Moav. C'est-à-dire, dans les pérégrinations des Bnei Israël, Moshe Rabbeinu leur a continué d'enseigner, et donc les mitzvot ont été répétées. Et donc, dans toutes les mitzvot, on pouvait, comme je vous l'ai dit, on pouvait penser que les grandes lignes ont été données au Sinaï, et les détails, on a 40 ans pour, on a eu 40 ans pour passer en revue les détails de toutes les mitzvot. Alors Rashi dit, il me semble que c'est pas ça, que enfin c'est basé là-dessus le limoud de Torah de Kohanim. Lamadnu sheklaloteha upratea kulan nemru mi-Sinaï. Comme c'est pas répété, on est obligé de dire que tout ce que la Torah veut nous dire concernant cette mitzvah de Shemitah, elle l'a dit ici, elle l'a dit au Sinaï. Ubakatuv, alors le verset vient dire, ve lamadkan al kol dibur she nidbar, qui d'aber le Moshe, mais Sinaï, ayu kulan klaloten didokehen, ve chazru venishnu be'avot Moav. Alors, tout a été donné expressément, explicitement au Sinaï. Aïe, alors pourquoi c'est répété dans Avot Moav? C'est répété pour qu'on comprenne bien. C'était Moshe Rabbeinu a jugé nécessaire de répéter. Vous pouvez poser la question pourquoi il n'a pas répété la Shemitah? Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas pourquoi cette mitzvah-là, elle n'a pas été répétée. Ce n'est pas la seule complètement, mais pourquoi cette mitzvah-là n'a pas été répétée, je ne sais pas. Mais puisque une grande partie des mitzvot ont été répétées, alors ici, notre verset vient dire, en disant, attention, la Shemitah, elle a été donnée entièrement au Sinaï. Qu'est-ce que tu peux en déduire? Pas que les autres n'ont pas été donnés au Sinaï. Tout a été donné au Sinaï, mais dans le même détail, de la même manière que la Shemitah. On peut se demander pourquoi d'ailleurs. Pourquoi, de la même manière qu'on peut demander pourquoi ce n'est pas répété, on peut se demander pourquoi il a fallu donner tous les détails des autres mitzvot aussi au Sinaï, puisque de toute manière, les détails en question vont être donnés dans votre Moab. C'est la question qu'on peut poser, c'est les deux facettes de la même question à laquelle je ne sais pas répondre. Oui, c'est ça, mais pourquoi c'était comme ça? Non, mais d'accord, on le sait. C'est ça qu'on, ça c'est ce que le Torah de Kohanim nous a enseigné. Mais quand on dit on a appris de là, c'est pas obligatoire de l'apprendre de là. C'est pourquoi on déduit ça de là? Parce que si on dit que la Shemitah a été donnée au Sinaï uniquement, alors il y a deux possibilités. Ou bien il y a que la Shemitah qui a été donnée entièrement au Sinaï, et les autres non. Et on peut dire le contraire. Tout a été donné au Sinaï. Et du coup, la question c'est pourquoi la Shemitah n'a pas répété? C'est la même question. Je ne sais pas répondre à cette question. M'a dit à Moshe Rabbeinu, d'abord el béné Israël, parle, dis au béné Israël, alors d'abord vers Martha, donc parle-leur et tu leur diras, Kitavo el haaretz, asher ani noten lachem. Quand vous arriverez en Eretz Israël, dans ce pays que enfin en Eretz, vers le pays que je vous donne, Veshavta haaretz, Shabbat lachem. Dans ce pays où vous allez arriver, il y a une nouvelle notion. La notion de Shabbat, on la connaît. Hachem a fait Shabbat et les Bnei Israël ont reçu la mitzvah de faire comme lui. Faire c'est un Shabbat des hommes. Les hommes sont chauvettes, ils chôment. Tout ce que ça veut dire, une fois par semaine, enfin, tous les 7 jours. Alors sachez que dans le pays où je vous amène, que je vous donne, il y a une notion de Shabbat, le Shabbat de la terre. Vous arrivez dans un pays où il y a une notion nouvelle. Évidemment, vous ne connaissez pas, connaissiez pas, parce que tout de même, vous n'étiez pas en Eretz Israël. C'est quelque chose qui est lié à la terre d'Israël. Cette terre-là, elle a droit aussi à un Shabbat. Donc, bien sûr que le Shabbat de la terre, c'est vous qui allez le respecter par rapport à la terre. Ce n'est pas la terre qui va faire kiddush. D'accord? Le Shabbat de la terre. D'accord? La terre va faire Shabbat. Mais c'est vous qui êtes en charge de faire le Shabbat de la terre. Et ce Shabbat, il a la même structure que le Shabbat des hommes. C'est-à-dire, Cheshet, comme j'ai marqué, Cheshet Yamim, Kasem Lacha, Ici, c'est marqué Sheshet. Shesh Shanim, Tizra Sadecha, Veshesh Shanim, Tizmor Karmecha. Donc, pendant 6 ans, on va travailler la terre. Donc, la terre va travailler. Elle va produire et tu vas moissonner. Ubashana Ashvi'it. Shabbat Shabbaton yé la aretz. Et la 7e année, de la même manière que le 7e jour, il y a un Shabbat pour les hommes, 7e année, il y a un Shabbat pour la terre. Un Shabbat, la terre fait Shabbat, c'est un Shabbat pour Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire ici, Shabbat pour Hachem? Shabbat, l'Hachem. La terre fait Shabbat, on comprend. La terre va chômer, on ne va pas faire travailler la terre, comme on va le dire là. Mais qu'est-ce que ça veut dire Shabbat, l'Hachem? Rashi dit le Shem Hachem, que Shem Shenemar be Shabbat Bereshit. C'est la même chose. C'est un Shabbat pour Hachem, exactement comme l'est le Shabbat des hommes, le Shabbat de Bereshit. Le Shabbat l'Hachem. Donc c'est aussi en rapport, visiblement, avec le fait qu'Hachem a fait Shabbat. Il y a un Shabbat qui s'est traduit par un Shabbat tous les 7 jours. Et le Shabbat d'Hachem s'est aussi traduit par un Shabbat tous les 7 ans qui concerne la terre. Donc, c'est pendant cette année-là, cette 7e année, l'on t'isera, tu vas pas ensemencer et tu vas pas planter ta vigne. Travailler la vigne. Et on va pas moissonner. On va pas récolter, on va pas vendanger non plus. Et c'est pas complètement terminé. C'est pas seulement ça. Vesafamta tu compteras pour toi. Tu compteras Sheva Shaptot Shanim. Sheva Shanim, Sheva Permim. Tu vas compter 7 septaines d'années. C'est-à-dire 7 fois 7 ans. Donc ça va vous faire 49 ans. Et à ce moment-là, Ve'avarta shofar trua ba'chodesh ha'shvi'i ve'asor la'chodesh be'yom ha'kippurim. Ta'aviru shofar bechol artzechem. Et dans cette 50e année, le 7e mois, vous voyez, 7 fois 7, 7e mois. Le 10 du mois, c'est Kippour. Et ce jour de Kippour commence une année qui s'appelle une année de Yovel. Cette année-là, cette 50e année, vous la sanctifierez, c'est-à-dire vous la traiterez différemment des autres. Et cette année-là, Kratem Dror Baaretz le Chol Yoshvea, Yovelhi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va sanctifier cette 50e année? Rashi, le Kiddushta. Le Kiddushtem, donc, cette 50e année. C'est toujours le Torah de Kohanim que Rashi cite. Be Knissata Mekachim Ota Be Bet Din. Ve'omrim mekudeshet hashana. Comment est-ce qu'on va sanctifier cette année? Il va y avoir au Beit Din à Yerushalayim, au grand Beit Din, Il va y avoir une déclaration au nom du président du Sanhédrin. Il va dire, je déclare cette année Kadosh. C'est-à-dire, cette année est séparée des autres. Elle est spécifique. C'est une année particulière, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez publier la liberté. Rachid dit, l'avadim. Vous allez libérer les esclaves. Ben Nirtza, que ce soit un esclave qui a choisi de rester esclave après ses 6 ans. Normalement, un esclave, on parle d'un esclave juif, au bout de 6 ans, il est libéré, la 7e année. Lui, il a dit, comme vous vous souvenez, il a dit, j'aime ma femme, mes enfants, j'aime mon maître, je veux continuer d'être esclave. Alors il va, on va lui poinçonner l'oreille, il s'appelle Nirtza, et ce bonhomme-là, il va rester esclave, mais quand arrive le Yovel, il est libre. Il aura, il n'y a pas le choix, quelque part. Et même si les 6 ans pour lesquels il a été vendu quand il a volé, par exemple, ne sont pas terminés, mais que le Yovel arrive à la 4e année, lui aussi va être libéré. Alors, Ukratem Dror. Qu'est-ce que c'est que ce mot de dror? Rabbi Yehuda a dit que ce mot dror, shemedayer bedayara, etc. Shedar, bekol makom sheurotse, veeno birshut acherim. Le lachon dror, il vient du verbe ladour, habiter. Il habitera où il veut. Quel est le signe extérieur de la liberté de l'esclave? C'est qu'il s'installe où il veut. Et il est eino birshut acherim. Il n'appartient à personne. Il est vraiment libre. Cette 50e année, elle a un autre nom. Elle s'appelle Yovel. En français, on dit jubilé. Je ne sais pas pourquoi, ça ressemble, hein, Yovel. Shanazot, Mouvdelet. Cette année-là, elle est séparée. C'est ça la Kedusha. Vous vous souvenez, Kadosh, ça veut dire séparé. Cette année est séparée. Mishar Shanim. Benekivat Shem, la Levada. Qu'est-ce qui la sépare? C'est qu'elle a un nom qui ne s'applique qu'à elle. C'est un nom, selon Yovel, qui qualifie aucune autre année que la 50e année. Ou Mashma Yovel. Yovel Shma. Qu'est-ce que, d'où ça vient, ce Yovel? Al-Shem Tkiat Shofar. Ça a à voir avec la sonnerie du shofar. Oui, Avram, il plaisera. Il dit, et qui d'achetait Metchnata Hamishim, vous allez sanctifier la 50e année, Bavodat Haaretz, vous la sanctifiez parce que on va s'arrêter de travailler et tous les gens qui habitent, et cette année, elle sera sanctifiée pour tous les gens qui habitent sur cette terre. Alors, il y a ceux qui ont de la terre, qui n'auront pas le droit non plus de la travailler. Puis ceux qui n'ont pas de terre, mais qui, par exemple, sont esclaves, eux vont être libérés. Et lui, il dit que Dror, dont Rashi a dit que ça avait à voir avec habiter, lui, il dit, Yadua, Shehu kemo chofshi. On sait que ça veut dire libre. Ou que Dror, le of katan, menagen, Yeshu birshuto, un petit oiseau qui chante quand il est tout seul, quand il est libre. Veim u birshut Adam lo yochal ad sheyamut. Il existe des oiseaux qui, s'ils sont pris par des hommes, ils mangent pas, ils se laissent mourir. Yovel, Rabbi Abraham Ibn Ezra, il a aussi sa lecture à lui du mot Yovel. Comment chaloir, c'est-à-dire renvoyer. C'est le renvoi des esclaves. Les Chazal amrou, chez Pirouche Yovel, Keves. Yovel, c'est un agneau. Les Araya, et la preuve, c'est Shofarot à Yovlo, à Yovlim. Venikra, Hashana Beshem Ashofar. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que pourquoi est-ce qu'on donne un nom à cette année qui a à voir avec les agneaux, avec les béliers, etc.? C'est parce que ce qui caractérise cette année, c'est qu'on va sonner du shofar. Le Sanhedrin, le chef du Sanhedrin, il va déclarer l'année commencée, il va sonner ou faire sonner du shofar. Et le shofar, traditionnellement, c'est une corne de bélier. Et donc, comme ce jour-là, du Yovel, le début de cette année de Yovel a à voir avec la sonnerie du chauffard. Alors, on a donné à cette année qui commence de cette manière un nom qui est en rapport avec le chauffard. C'est-à-dire, on lui a donné ce nom de Yovel, qui, dans je sais pas quelle langue, ou peut-être on l'a chanté à côté, je sais pas, veut dire Keves, c'est-à-dire veut dire agneau. C'est l'explication de Rabbi Avraham Ibn Ezra. Le Rambat, oui. Il faut parler plus fort parce que sinon personne n'entend ce que vous dites.
Donc, on reconnaît dans le nom Kéves une relation au chauffard.
Oui, parce que le chauffard, c'est une corne de bélier. Et le bélier, c'est le mâle dont l'agneau est l'enfant. Le Ramban n'est pas d'accord avec Ibn Ezra, mais ce n'est pas très étonnant, ils sont souvent pas d'accord. Et alors il ramène effectivement l'opinion de Rabbi Abraham Ibn Ezra. Mais il ramène aussi donc ce que dit Rashi. Rashi dit aussi quelque chose comme ça. Donc, le Ramban dit comme ça. Shanazu nivdelet mishar hashanim benikivat shem levada, mashma yovel shma, hashem tkiat shofar lashon rashi. Donc, comme toujours, le Ramban il cite Rashi. Vechen dat amfarshim, et les commentateurs y pensent aussi comme ça. Milashon bekeren ayovel shofarot ayovlim. Donc, les gens, ils se sont appuyés, comme Ibn Ezra, sur l'histoire du shofar. Et le shofar, c'est les cornes de bélier, etc. Donc, c'est comme ça qu'on arrive. Ve'eno mechouvar li. Mais ça me plaît pas du tout. Bavou, qui est lachem, qui matam amar beshana, qui est lachem. Ve'ulai yomara katuv, yovel hi, nekuva beshem azeh, שקראתי לה, תהיה לכם, לכולכם, ידוע, תקיעה שתקעו בה, להזכיר עניינה שתשובו בה, היא של אחוזתו. On sait que cette sonnerie du shofar, elle va déclencher la libération des esclaves, et les gens vont retrouver leur champ patrie, leur propriété patrimoniale, etc. Ve'i shel mishpachto, les gens retourneront à leur famille, donc c'est même les esclaves. Ve'chen yovel hi shnat ha'chamishim shana, tiyeh lachem, shetiyeh lachem yovel, shelo tizreu velo tiktzeru. Yovel, c'est aussi, sans que ce soit dit explicitement, ici, vous allez pas. Vous n'allez pas semer ni moissonner. Et ça s'appelle comme ça. Et toutes ces explications qui ont été données par toutes sortes de gens, ça ne me plaît pas. Premièrement, Shofarot Ayovlim, Karnea Elim, Vegam Targum Yonatan, Shufra de Keren Dikra, Ren Bagmara, Mai Mashma, Da Yovla Lishna de Dikra, ou, c'est qu'en Baravi Corinne le Dikra Yovla. Ah, c'est ça, le bouc, en fait, ou en vérité le bélier, en arabe, ça se dit Yovla. Ve'a shofar be'yom ha'kippourim, eno meyuchad lioto me'a'il. Il dit, c'est pas vrai. A Yom Kippour, le shofar, il n'est pas spécifiquement un shofar de bélier. C'est un Rosh Hashanah comme ça, parce que c'est Rosh Hashanah, c'est lié avec Akedat Yitzhak. Donc c'est lié avec le bélier qu'Abraham Avinu a approché comme Corban à la place de son fils. Mais à Yom Kippour, on sonne aussi du shofar, mais le shofar, ça peut être n'importe quelle corne. Kol ha-shofarot k'sherim bo. D'ailleurs, même à Rosh Hashanah, mais à Yom Kippour, il n'y a pas de raison de choisir l'un plutôt que l'autre, puisque ça n'a rien à voir avec Akedat Yitzhak. Valdat Mishnatenu Vekola Tanin Mitzvato Veshem Yaalim. Imken Lamati Kare Hashana Shnat Ha'il. Donc, en fait, on peut très bien prendre un bouquetin ou quelque chose comme ça. Donc pourquoi on appellerait toute l'année d'après le bélier? Il n'y a pas de raison. Verabi Abraham Amar Yovel Tam Shiloach, renvoyé. Le Fidati Lokaro Akatuv Yovel Alatkia Rakaladro. D'après moi, le mot Yovel, il n'a rien à voir avec les sonneries du shofar. Il a à voir avec la liberté. Il a esquir Hashem mazé, bakatou barishon, shenemar ve'avarta, shofar troua, avalamar ou kraatem. Donc, Pasuk dit, vous allez publier Dror Ba'aretz publiait que la liberté dans le pays, le Cholioshvéa, tous les habitants, Shiyukulam Bnechorin, la Dour Bechol Makom Shiyirtsu, ils pourront habiter où ils veulent. Va'amar Yovel Hi Sheba Yuval Kol Ish El Achuzato Vel Mishparto Yovilu Raglav. Yovilu, ça veut dire ses pieds le mèneront chez lui. Chacun ira où il veut. Même depuis de loin, Lagour. Et ce mot-là, on l'utilise dans toutes sortes de situations. Donc, il cite de telles situations. Ça, c'est donc la lecture du Ramban. Il dit que ça n'a rien à voir avec le chauffard, ça a à voir avec la libération. Donc, on a toutes sortes d'explications sur ce nom de Yovel. Alors, cette 50e année, ça donne le Yovel. Et alors, bon, c'est Kadosh. Yovel azot, chacun reviendra à son champ patrimonial. Donc, voilà le premier sujet. Le sujet, c'est l'agriculture, quoi, si vous voulez. C'est la Shemitah et le Yovel. Le deuxième sujet dans cette paracha, c'est le business. Alors, vous avez, c'est le verset suivant, le verset Yud-Dalet. C'est marqué, Vechitim kurum imkar la amitecha, okanu miyad amitecha, altonu ish et achiv. Alors, je reviens tout de suite sur altonu, mais on continue et on dit, Bemispar shanim acharayovel tikne met amitecha, Bemispar shnetvot imkarlach, Firovashanim tamvim knato. Et de nouveau, qu'est-ce qu'on dit là? Alors, d'abord, on dit la chose suivante. Si de toute manière, quand quelqu'un est obligé ou il a voulu vendre son champ patrimonial. Je parle de champ patrimonial parce que quand les Bnei Israël sont arrivés en Eretz Israël, comme je vous ai dit, on a partagé la terre entre les différentes tribus et dans les tribus, les différentes familles ont reçu chacune un certain lopin de terre. Et ce lopin de terre-là, c'est son champ patrimonial. Et c'est ce champ-là qui revient toujours à son propriétaire, si vous voulez. Donc, si jamais on le vend, comme il va revenir à son propriétaire au Yovel, en vérité, on ne vend jamais le terrain. On vend un certain nombre de récoltes. C'est-à-dire, si on vend le terrain, alors, d'un Yovel à l'autre, il y a 50 ans. Donc, disons que on vend un terrain 10 ans après le dernier Yovel. Il reste encore à courir 40 ans. Donc, il va y avoir 40, disons, 40 récoltes. Donc, le prix que tu vas payer, c'est le prix de 40 récoltes. C'est ça. Il n'y a pas de prix de la terre. C'est toujours un prix des récoltes. Alors, bien entendu, ça va dépendre de la qualité de la terre. Combien va valoir une récolte? Ça, c'est bon. Ça, c'est les gens devront s'arranger entre eux. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. On vend un certain nombre de récoltes. Donc, le prix de vente sera fonction du nombre de récoltes Il y a encore à courir jusqu'au prochain Yovel. Je pense que ça, c'est clair. C'est ça le rapport à la terre. Ça veut dire qu'on n'achète jamais que des récoltes, pas autre chose. Ensuite, au début et à la fin de cette précision sur la façon dont on vend un terrain, en quelque sorte, il y a ce lave de Al tonu ish et achiv qui est répété au Parsouk Yudzaïn, V'lo tonu ish et amito, ki ani Hashem elokechem. Pour nous, ça veut dire vous n'avez pas le droit de tromper. Il y a un interdit de ce qu'on appelle la Torah va appeler ça Ona'a. Ona'a. Ona'a, c'est une espèce de fraude, quoi. Une espèce de tricherie. Alors, je reviendrai encore là-dessus, évidemment. Mais lisons la suite. ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי, תשמרו ועשיתם אותם, ושבתם על הארץ לבטח. Si vous respectez mes lois, vous résiderez en sécurité sur la terre d'Israël. ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע, et la terre donnera ce qu'elle doit donner, et vous serez rassasiés, ושבתם לבטח עליה, répétition. Et vous serez en sécurité sur cette terre. Et le problème, c'est que cette histoire de Shemitah, c'est joli, mais si on sème pas, si on ne sème pas, alors qu'est-ce qu'on va manger? Ritomru manochal bashana shvit. Si vous dites, mais qu'est-ce qu'on va manger cette année-là, cette septième année, puisque on ne sème pas et on récolte pas, on ne moissonne pas. Alors Hachem dit, Vetsiviti et Birchati, j'ordonnerai ma bracha pour vous. Bashana Hashishit, la sixième année, qui est une année normale, vous allez récolter. Asa, cette sixième année, Asa est à toi les shlosh. Un chanim. Vous allez récolter pour 3 ans lors de la sixième année. Et alors, la huitième année, vous aurez le droit de semer et vous mangerez des récoltes, enfin de la récolte du sixième année, Yashan. Jusqu'à la neuvième année, parce que la neuvième année, vous aurez les produits de ce que vous avez semé dans la huitième. Et répétition, la terre ne sera pas vendue définitivement. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas vendre la terre définitivement? Parce que comme on l'a dit, on vend que des récoltes. Parce que, qui lit Haaretz? Parce que la terre, dit Hachem, elle est à moi. Et comme je vous ai dit, Hachem dit, vous êtes sur cette terre, qui guérim v'toshavim atem imadi. Vous êtes, par rapport à moi, avec moi, sur cette terre, mais vous êtes des étrangers résidant sur la terre avec moi. Ah non? Hachem ne nous donne la terre que dans ces conditions-là. C'est-à-dire, en fait, je vous donne une terre sur laquelle vous avez le droit d'être Gerim Toshavim. C'est intéressant parce que cette expression de Gerim Toshavim, elle est réminiscente de quoi? C'est Avraham Avinu qui dit à Ephron, qui dit, sur cette terre, je veux bien être Tochav. Mais il leur dit, mais la terre, en vérité, elle est à moi. Hachem me l'a donnée. Je veux bien jouer le rôle de l'étranger. Je vais même payer pour acheter un caveau pour ma femme alors que la terre m'appartient. Et vous pouvez mettre vos drapeaux où vous voulez. Faire comme si c'était votre terre, etc. Je m'en fiche. L'important, c'est que je puisse faire ce que j'ai à faire par rapport à Hachem. Si je peux faire cela, alors vous pouvez raconter que vous êtes les propriétaires. Et si vous ne me laissez pas faire, alors Abraham vient me dire, je vous ferai la guerre et je vous prendrai la terre. Et ici, Hachem dit, ça n'a pas changé, mais au lieu que ce soit les égoïmes, qui soient chez lesquels vous êtes étrangers, etc., c'est auprès de moi. Et c'est la même chose, si vous voulez, que on était esclave de Paro et maintenant on est esclave d'Hachem. Qu'est-ce qu'on a fait? Changer de maître? C'est la même chose ici? Non. Parce qu'être esclave d'Hachem, ou bien être avec Hachem, qui est lui le proprio de la terre, et nous être là-bas comme étrangers et comme résidents, etc., comme c'est Hachem, c'est complètement différent parce qu'Hachem, il a pas d'intérêt. Ce qu'il fait, il le fait pour nous. Tandis que si c'est quelqu'un d'autre, chacun poursuit ses intérêts. Que ce soit dans le cas des esclaves ou dans le cas de la propriété. Alors, justement, puisque c'est comme ça, alors si quelqu'un est amené à devoir vendre une propriété, il a fait des mauvaises affaires, il doit vendre ses propriétés. Alors, vous lisez la suite. Si quelqu'un, ton frère en vérité, il s'affaiblit, il est obligé de vendre son champ patrimonial. Alors, son libérateur, c'est-à-dire un proche parent, aura la possibilité de racheter ce qui a été vendu à un tiers. Et donc, il pourra éventuellement préserver où il achète pour l'autre, ou bien il l'achète, mais il lui fait des conditions particulières, etc. Et si quelqu'un n'a pas de goël, n'a pas de libérateur, c'est-à-dire il a vendu mais personne, n'a pas de proche qui va s'occuper de racheter pour lui, si tout à coup il a gagné à la loterie ou il peut se racheter lui-même. C'est-à-dire que, de nouveau, ça a été vendu, mais s'il est capable de racheter ou si quelqu'un peut racheter pour lui, l'acheteur initial, t'es obligé de le vendre. Il ne pourra pas dire non, mais je l'ai acheté, je me le garde. Non, il est obligé de le vendre. Et si personne ne l'a racheté, ça va rester chez l'acheteur initial jusqu'au Yovel. À ce moment-là, ça reviendra. Et on a le même problème avec des villes, avec des maisons, pardon, dans des villes qui ont une muraille. Alors vous vous souvenez, l'histoire des villes avec muraille, c'est quelque chose dont on a un peu parlé à l'époque de Pourim. Parce qu'à Pourim, on dit que les villes qui avaient une muraille au temps de Yoshua Binoun, ces villes-là, elles font Pourim le 15, et pas le 14 comme tout le monde. Et donc, je ne sais pas, si vous vous souvenez, c'est quoi l'histoire de la ville avec les murailles? Pourquoi acheter une maison dans une, ben acheter ou vendre une maison dans une ville avec murailles, c'est différent de la même chose dans une ville sans murailles. C'est quoi la muraille? Si, je pense, je vais répéter. S'il n'y a pas de muraille, Alors chacun doit se protéger. Chacun doit se faire sa petite muraille personnelle. Bon, on vit dans un monde dangereux, il y a des gens qui voudront agresser, etc. Donc il va falloir organiser une défense de chacun. Si les gens d'une ville ont compris que c'est leur intérêt de construire une muraille qui va les protéger tous et d'éviter que chacun doive faire la défense et veiller à se défendre tout seul, là ils vont construire une muraille, on va appointer des gens pour surveiller, etc. Donc il va y avoir une démarche collective. Et donc d'habiter dans une maison qui appartient à une ville où il y a, on a compris l'importance de la collectivité, ça vaut cher quelque part. Et donc, c'est celui qui a ce privilège-là, il n'a pas envie de. Bon, la Torah, elle reconnaît, il a fait les efforts. Il fait partie des gens qui ont compris la nécessité de la collectivité, dans certains cas. Il a compris qu'il y a des choses que les individus ne peuvent pas faire tout seuls, c'est à toutes sortes de niveaux. S'il a compris ça, alors effectivement, la Torah va dire que si quelqu'un est obligé de vendre une maison dans ces conditions-là, il aura aussi un droit de rachat prioritaire. Pas exactement le même que pour les champs, mais il y aura aussi une halakha qui fait qu'on peut, il va pouvoir libérer, récupérer la maison en question pendant une année. Donc, ça, c'est l'histoire des murailles. Donc, ici, ça donne toutes sortes d'idées sur la façon dont on vit sur la terre d'Israël, quoi. Et dans la terre d'Israël, sur la terre d'Israël, il y a aussi encore une certaine hiérarchie entre les villes avec et les villes sans murailles.
La collectivité a compris dans sa
C'est les individus ont compris qu'il fallait se mettre en collectivité. Alors chaque maison, elle fait partie des gens qui ont compris. Alors on la protège.
réalité.
Pardon? Non, ce n'est pas un problème de kedusha vraiment, c'est un problème social, ça veut dire. Donc, on prend l'importance de la. Il n'y a pas de kedusha particulière, mais il y a un dîn de rachat possible. Donc, il y a une singularité des maisons qui ont. Alors, on pourrait dire kedusha dans la mesure où kedusha, ça va pour. Ça pourrait pratiquement pour se dire de toute chose qui est séparée, qui a un statut à part. Ce n'est pas une kedusha au sens habituel du terme. Ensuite, on nous parle aussi du statut particulier des Aréalvim, des villes des Lévim. Comme vous savez, la tribu de Lévi, ils n'ont pas reçu de part quand on a partagé Eretz Israël. N'ont pas reçu de terrain parce qu'ils doivent être disponibles, ils sont requis à tout moment pour le service d'Hachem. Par service d'Hachem, on entend le cas échéant pour les Kohanim et les Levim aussi, hein, chacun à sa place, le fonctionnement du Beth Amikdash, mais essentiellement l'étude de la Torah et l'enseignement de cette Torah. Ce sont les fonctions. Et donc, quand on est astreint à l'étude et à l'enseignement de la Torah, on ne peut pas avoir encore à s'occuper des terres, etc. Donc, ils n'ont pas reçu de terres. Mais ils ont reçu des villes pour habiter, pour eux. Alors, bon, les villes, elles ont une ceinture verte, etc. On en a déjà parlé une autre fois. Et là aussi, il y a des dénimes spéciaux pour les villes d'Elvim. Vous savez par ailleurs qu'il y a 42 villes de Levim Et ces 42 villes de Levim, elles fonctionnent aussi comme villes-refuges. Dans les villes-refuges, il y a 6 villes-refuges, plus les 42 villes d'Élevim qui jouent le rôle de villes-refuges également. Villes-refuges, ça veut dire des villes dans lesquelles quelqu'un qui a tué par inadvertance va s'exiler pour être protégé de la vengeance éventuelle des proches de la personne qu'il a tué par inadvertance. Je reviens sur Altonou. Je reviens sur le verset Altonou, le verset Yud-Dalet et le verset Yud-Zayin. Alors, Rashi dit seulement que sur Altonou, ils disent ou Onaat Mamon. Et le deuxième, l'otonoui chez Tamito, là-dessus, Rashi dit, il rapporte toujours un Torah de Kohanim, et il dit, Kan izir al noat dvarim, que lo yaknit ish et travero, que lo yasienu et sachena ogenet lo, le fidarko, veanarto, shel yoetz, vim tomar mi yodea, im nit kavanti le raa, le kaf nemar vi areta me lokecha, היודע המחשבות, הוא יודע. כל דבר המסור ללב, שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בליבו, נאמר בו ויראת מאלוקיך. Alors, de quoi on parle ici? Ici, on parle de la notion qui s'appelle Onaa, et on vient de voir. Il y a deux sortes d'ona. Il y a une ona au niveau de l'argent et une ona au niveau des paroles. Alors, la ona au niveau de l'argent. La Torah, elle dit que si vous achetez quelque chose et que cette chose-là a un cours, ça veut dire qu'il existe un marché. Et que on sait que à cette époque-là, le kilo des pommes, un truc, un kilo, ça coûte 3 euros. Bon. Ça veut dire que si vous avez 3 euros, vous allez au marché, pour 3 euros, vous aurez votre kilo de pommes. Si maintenant, vous allez chez un marchand de ces pommes-là, et vous n'êtes pas au courant du cours, et il vous le vend plus qu'un sixième au-dessus du prix. Un sixième de 3 euros, ça fait combien? Pardon? Voilà. Donc s'il vous le vend 60 centimes au-dessus du prix, il y a ce qu'on appelle onaa. Et quand vous vous apercevez de cela, vous pouvez aller chez votre marchand et lui rendre ses pommes et dire, voilà tes pommes, donne-moi mon argent. Bon, on peut annuler la vente. La vente est annulée. Si c'est le marchand qui s'est trompé et qui vous l'a vendu 60 centimes en dessous du prix, lui aussi il peut venir et dire, je me suis trompé. Rends-moi mes pommes, voilà ton argent. C'est-à-dire que quand quelque chose a un cours, alors la limite du bénéfice qu'on peut faire au-dessus, dans le cours, probablement, bien entendu, le bénéfice est inclus, parce que sinon, ça ne donnerait pas le cours. Non, si le paysan, ses pommes, de les produire, ça lui coûte 3 euros et qu'il les vend 3 euros, bon, il n'ira pas très loin. D'accord? Il faut imaginer que ça lui coûte moins, qu'il en vend à 3 et là-dedans, il fait son beurre, quoi. Mais si les yeux plus gros que le monde, si plus que ça, voilà. Si c'est plus que le prix, mais moins qu'un sixième, alors On a le choix. Vous pouvez dire, donne-moi la différence, rends-moi la différence. Je garde les pommes, mais rends-moi les 60 centimes que les 40 centimes que tu as pris de trop, je me les rends. Ou bien je peux dire non, ben, préfère, on annule. Là, et dans l'autre sens aussi, hein. Donc ça, c'est un problème qu'on appelle la ona'a. On n'a pas le droit de tromper quelqu'un. Bien entendu, ça ne concerne que les choses qui ont un cours. Parce que si vous achetez votre Rembrandt et que le marchand vous l'a vendu plus cher que la dernière fois où il a été vendu aux enchères, vous n'allez pas pouvoir dire c'est plus qu'un sixième, j'annule la vente. En vérité, pour le Rembrandt, c'est sûrement comme ça. Mais aujourd'hui, avec l'Internet et tout, je parlais encore cet après-midi. Non, c'est cet après-midi? Oui. Mardi, oui. J'ai parlé avec Marie Karmitz, qui lui est un collectionneur. Il m'a dit que c'est très ambigu aujourd'hui. Peut-être que il y a une notion qui est presque le cours. Et le, bon, c'est pas très clair parce que de toute manière, chaque tableau n'existe qu'en un seul exemplaire. C'est pas les pommes en question, elles existent en plusieurs exemplaires. Je suis pas tout à fait sûr, mais c'est vrai que maintenant, c'est un petit peu différent. Et lui, il dit, moi, je considère que si quelqu'un, la dernière vente aux enchères, ce tableau, il est parti à 150 000 et le type, il me propose 350 000, je pense que c'est un voleur. Bon. Mais bien sûr qu'il y aura des gens qui vont l'acheter à 350 parce que aujourd'hui, ils spéculent que oh, c'est possible, je l'achète à 350, mais dans 3 ans, il vaudra 500. Alors, ça c'est la honnaie de l'argent. Donc, on ne peut pas tromper quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle honaat dvarim, une honaie des paroles. Les paroles, c'est qu'on n'a pas le droit de blesser quelqu'un par ses paroles. On n'a pas le droit de donner à quelqu'un un conseil qui n'est pas bon pour lui, mais qui est bon pour moi, quoi. Alors évidemment, quand vous donnez un conseil à quelqu'un, vous pouvez vous dire, qui sait dans quel état d'esprit je lui ai donné ce conseil. Peut-être je lui ai donné ce conseil pour que j'ai calculé que moi je vais gagner finalement, s'il fait ce que je lui dis. Ben, il va le vendre à celui-là et moi, sur celui-là, j'arriverai à le lui prendre ou je sais pas quoi. Ouais. La Gemara, elle envisage toutes sortes de cas. Ça, c'est un issur minatora. Pas? Vendre au-dessus du prix, c'est un issur minatora. Des livres entiers qui ont été écrits là-dessus. En français, Henri Atlan, il a écrit tout un bouquin qui s'appelle La fraude sur la ONA. Bon, c'est sa façon à lui de voir le problème, mais bon, c'est un grand sujet. Un sujet parce que bon, il y a une façon de le lire ça de, à un niveau de Kabbalah, etc. Mais disons là, dans la Torah, et on est dans les règles de business. OK? Ça, c'est le deuxième sujet. Oui. Fort.
On n'a pas le droit de blesser quelqu'un par ses paroles. Si on fait une tohara, c'est problème.
La Torah n'est pas, si vraiment la Torah est une Torah, ça ne devrait pas blesser parce que qu'est-ce que c'est une Torah? Une Torah, c'est une remontrance. Te remontre la halakha. Alors effectivement, La Torah, faut savoir dans quel état d'esprit on le fait. C'est sûr que si vous faites une Torah, parce que ça vous fait quand même plaisir de le remettre en place, l'autre, là, vous voyez bien que, voilà, ça c'est sûr que c'est un issur. Mais maintenant, le problème c'est qu'aujourd'hui, depuis assez longtemps, là dans la Gemara, les gens sont pas très friands de Torahot. Bon, c'est difficile de. La Gemara, elle dit que, du temps de la Gemara déjà, le seul qui t'aime quand tu lui fais des Torahot, dit Rabbi Tarfon, c'est Rabbi Akiva. Donc, ouais, il faut se lever tôt. Donc, normalement, on devrait se réjouir. Je me suis trompé, quelqu'un me corrige. Et à la limite, même s'il prend son pied à me corriger. Mais c'est sûr que si quelqu'un a pris son pied à vous corriger, mais qui vous a sauvé parce que ce que vous étiez en train de boire là, c'était de l'arsenic ou je sais pas quoi, même si vous vous dites, ouais, il a pris son pied à me, mais quand même, vous êtes quand même bien content qu'il vous ait corrigé. Bon, ça veut dire que il faut être capable de se dire que finalement, c'est son problème si lui, il le fait avec un mauvais esprit. Mais si c'est une vraie tohara, si c'est quelque chose qui me permet de me corriger, je suis en train de me tromper. Je me trompe dans la mitzvah, je me trompe dans le comportement avec quelle personne, etc. Et on me remet les idées en place. Ouais. Je devrais pouvoir faire abstraction de l'intention éventuellement pas trop sympa de celui qui fait la Torah et de le prendre que la Torah telle quelle. Bon, ok, tu m'as sauvé d'une erreur. Mais visiblement, c'est assez difficile. Et certains disent qu'il ne faut pas faire de Torah à quelqu'un dont on sait qu'il ne l'écoutera pas. Mais ça, c'est très discuté. Certains disent que c'est seulement sur un dérabanan. Si quelqu'un est en train de faire une avéra, il est obligé de lui faire la tohara, même si ça ne lui plaît pas. Bon, ça se discute, ce problème-là, même s'il va t'en vouloir. Il y a une question très intéressante dans la Gemara, qui est un peu compliquée. La Gemara, elle envisage la situation suivante. Vous avez devant vous quelqu'un auquel vous voulez faire une tohara. Il est en train de se tromper. Vous voulez lui faire une tohara. Et vous avez, c'est pas votre intérêt. C'est vraiment, ça vous dérange qu'il se trompe, c'est pas bon pour lui, etc. Vous voulez lui faire une tohara. Mais vous savez que ce type-là, quand on lui fait une tohara, il y a des chances qu'il vous envoie son poing dans la figure. Alors, comme vous n'êtes pas très courageux, vous n'avez pas envie de cela, alors vous vous dites, mais qui suis-je, moi, pour faire des tohara aux gens? Je ne suis rien du tout, moi-même, j'ai fait beaucoup de fautes, etc. Donc, je me raconte toute une histoire pour ne pas faire la tohara. Ça s'appelle tohara. Donc, en vérité, ce que j'avais devant moi, c'est, je prends une posture d'humilité qui est évidemment, comme on dit chez l'Olishma, qui n'est pas vrai. Et en face, j'ai Torah Lishma. J'ai une remontrance Lishma. Et donc la Gemara demande qu'est-ce qui est mieux? Tu as devant toi Torah Lishma. Et humilité chez l'Olishma. Et l'Agmar répond, ce qui est mieux, c'est humilité chez l'Olishma. Et là, d'où nous, on comprend rien, parce que pour nous, humilité chez l'Olishma, ça s'appelle, en français, hypocrisie. Ouais. Ça, hypocrisie, qui suis-je? C'est pas vrai, j'en pense pas moins. Et pourtant, l'Agmar, elle dit, et l'Agmar, elle explique pourquoi. L'Agmara, elle dit, tu es d'accord que l'humilité, c'est la plus belle des midot, des bonnes midot. C'est ce qu'on dit sur Moshe Rabbeinu. C'est plus humble que tout. L'humilité, un avare, c'est vraiment le top du top. Évidemment, quand elle est faite, l'ishma, quand elle est faite, sincèrement. Il dit la Gemara, même quand c'est pas fait, l'ishma, ça reste toujours au top. Même ce que nous on appelle hypocrisie, la Gemara, elle dit, il faut expliquer. La Gemara, elle dit que ça reste, comme c'est le top du top, ça reste encore au top et c'est encore supérieur à une Torah lishma. Et donc c'est ça qu'il faut choisir. Quand on a les deux devant soi. Alors, pour l'explication, que j'ai entendu, quelqu'un a rapporté un enseignement de Rav Kreiswirth, qui était le Rav d'Anvers. Rav Kreiswirth, c'était quelqu'un qui savait tout le chasse par cœur et tout. Je veux dire, c'était, bon, c'était un phénomène. Il a dit que par humilité, on entend une certaine façon de se conduire. Et donc, c'est très important. Ça veut dire que dans les midot, on s'occupe pas de ce à quoi tu penses. C'est regarder les midot, qu'est-ce que tu fais? On regarde, tu fais du chesed, d'accord, mais tu penses à ta gloriole, ok, mais tu as fait du chesed. C'est chesed. On s'occupe pas de ce à quoi tu penses. Le chesed, c'est du chesed. La hanava, c'est la hanava. Il dit, c'est une façon de vivre, c'est une façon de se conduire. Bon. Alors bon, c'est pas comme ça qu'on enseigne dans le Moussard, quoi. On va pas dire ça dans le Moussard, mais cette Gemara, c'est la seule explication d'ailleurs vraie explication que j'ai entendue à ce sujet-là. Je n'ai pas parlé de ça avec mon maître, donc je ne sais pas ce que lui dirait, il aurait dit. Mais bon, Rav Kreisler, c'est une autorité quand même. Et je trouve que faut oser le dire, mais ça nécessite une réflexion. Alors, je vous ai dit, il y a un troisième grand sujet, je vais juste le mentionner. Le troisième grand sujet, c'est le prêt à intérêt, qui est interdit. C'est le ribbit qui est interdit. Ribbit, c'est le prêt à intérêt, que ce soit un prêt d'argent ou un prêt d'objet ou de nourriture, etc. Ça veut dire, tu peux pas prêter 1 kilo de riz à quelqu'un, dire, mais tu me rendras 1 kilo 100 grammes. C'est ribbit, c'est interdit. Et à cause de cela, il y a des gens qui n'empruntent jamais. Je ne vais pas chez la voisine emprunter une bouteille d'huile. Parce que quand je vais lui rendre l'huile, peut-être le mois d'après, le prix de l'huile aura changé. Et donc, je lui ai emprunté quelque chose qui valait 1 euro et je lui rends quelque chose qui vaut 2 euros. C'est du ribbit. Ce n'est pas un ribbit minatora, mais c'est un ribbit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner. Donne-moi. Donne-moi un litre de. Donne. Alors après, à l'occasion, je lui donne aussi, mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas un prêt. L'idée, c'est la notion de prêt. Alors par exemple, cette histoire du ribbit, telle que c'est présentée dans la Torah, c'est un ribbit qui est. C'est pas un emprunt pour faire du business. C'est pas que A demande à B, prête-moi 1 000, moi je vais aller faire du business, gagner 2 000 et après je te rendrai tes 1 000. C'est pas de ça. On parle pas de ça. On parle, dans la Torah, on parle de ton frère qui est en train de se casser la figure. Ton frère, il a fait des mauvaises affaires. Et il n'a pas à manger. Alors, la Torah dit, prête-lui. Mais prête-lui sans intérêt, parce que si tu lui prêtes avec intérêt, la Torah, elle a une des deux expressions qui définissent la notion de prêt-intérêt, c'est nocher. Nocher, ça veut dire mordre. Parce que la Torah, elle considère que si tu prêtes à ton frère qui n'a pas les moyens, tu lui prêtes 100 et que tu lui demandes 110, où il va prendre les 10? Tu es en train de lui mordre 10. D'accord? Pour ceux auxquels ça dit quelque chose, c'est le marchand de Venise. C'est la livre de chair du marchand de Venise. OK? Le camarade Shakespeare. Pardon? Non, c'est pas... En vérité, d'après ce que quelqu'un m'a dit, que en fait, il avait écrit le marchand de Venise sur les Lombards. Mais il n'a pas osé, c'était eux les banquiers. Il n'a pas osé le publier sur les Lombards, alors il raconte sur les Juifs qu'on pouvait. Sais pas si c'est vrai, hein, c'est peut-être les Juifs qui veulent sauver la tête de Shakespeare, je ne sais pas. Voilà, donc c'est de ce prêt-là qu'on parle quand on parle que tu ne peux pas lui prendre d'intérêt. Si maintenant tu veux emprunter à quelqu'un pour faire du business, alors il y a une possibilité, mais il ne faut pas appeler ça un prêt. C'est le business, c'est autre chose. On peut le faire, y compris avec un prêt entre-temps, un prêt relais, mais c'est du business, c'est plus un prêt. C'est pas le prêt dont on parle dans la Torah. Alors du coup, c'est interdit. Ça veut dire que quand vous déposez votre argent dans une banque et la banque, elle vous donne un intérêt, si c'était une banque, si c'est une banque juive, vous ne pouvez pas prendre l'intérêt, elle n'a pas le droit de vous donner l'intérêt. Donc dans les banques juives qui respectent la Torah, il y a des petites lettres en bas où on explique que la banque, quand vous prêtez de l'argent à la banque, elle va faire un business avec ça. Et elle va associer l'argent que vous avez donné, elle va mettre aussi de l'argent, et puis dans la répartition des bénéfices du business que la banque aura fait avec ça, vous aurez une plus large part qu'elle, qui va compenser, enfin qui va être le montant quasiment de ce qu'elle va vous donner comme intérêt. C'est plus de l'intérêt, mais c'est le produit du business que vous avez fait avec la banque.
Et les ajouts, ça marche pareil.
Pardon?
Les ajouts, en sens inverse,
Les
c'est-à-dire l'intérêt qu'elle me prend, je t'en
Ah,
déduis.
c'est la même chose, vous ne pouvez pas lui donner non plus l'intérêt à elle. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a des goyim. Ah.
J'ai beaucoup de difficultés comment raisonner pour que dans ma tête, je vois que c'est hypocrisie, quoi. Je ne sais pas comment résoudre ça pour être complet. Parce que je me dis, c'est la Torah, je ne cherche pas plus. Mais ça gêne un peu que ce soit un montage.
C'est un montage. J'ai justement essayé de vous expliquer que quand vous lisez la Torah, vous voyez bien qu'on ne parle pas d'un prêt pour faire du business. Donc le reste, quand quelqu'un veut faire du business et qu'il n'a pas l'argent et qu'il a besoin d'emprunter, il faut quand même lui permettre de le faire. Alors comment on va faire? Alors on a dit, voilà comment on va faire. Il y a un montage, oui, mais tout est dans la Torah. Il y a beaucoup de choses qui sont des montages. Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Condamner quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui ne peut pas faire de business?
Me dis, y a-t-il une pensée pour combattre ce petit vélo qui dans ma tête et qui vient me dire, en fait, l'hypocrisie, ça, je dis, je
Mais
te.
ce n'est pas l'hypocrisie, c'est une façon de permettre à quelqu'un qui n'a pas les moyens de sortir de sa pauvreté, éventuellement.
Mais je parle
Alors,
de.
il existe des. Chez les religieux, comme on dit, il y a ce qu'on appelle des institutions de prêt sans intérêt. Bon, ça c'est très bien, mais bon, c'est normalement c'est pas fait pour faire du business. C'est fait pour aider les gens qui en ont besoin, éventuellement pour s'acheter une maison, pour etc. D'accord, mais pour la vie, mais pas pour faire du business.
On dit que on se croit aider quelqu'un pour s'installer, par exemple,
Oui, ben ça.
s'installer professionnellement.
Ok, donc c'est comme ça. Et maintenant, Alors voilà, vous avez aidé les gens, mais vous l'avez aidé à s'installer. Seulement, il n'a pas les moyens de garder sa vie. Il ne va pas non plus dans le collège parce que il veut pas s'asseoir et étudier. Et puis ça marche pas. Alors il faut l'aider. Alors vous l'aidez. Il y a quelqu'un qui est prêt à l'aider, mais qui peut pas se permettre peut-être non plus de l'aider à fond perdu. C'est-à-dire pendant ce temps-là, lui il gagne pas d'argent non plus avec son argent. Alors voilà une solution qui est un montage dans lequel effectivement on respecte la halakha, mais ce montage on le fait parce que on annonce la couleur. C'est pas un prêt, c'est un prêt. Il y a un prêt entre deux, mais après ça, il y a une construction. C'est pas fait pour c'est pas dit pour aider quelqu'un qui est en train de se noyer. Torah considère qu'il vaut mieux aider quelqu'un à pas tomber plutôt que de le relever. Ça coûte moins cher en général. Là-dessus, elle dit que tu lui prêtes. Mais tu lui prêtes et tu prends pas d'intérêt parce que si tu lui prenais de l'intérêt, ce serait le mordre. Parce que où tu veux qu'il prenne, de quoi te rendre?
Le mort, on sachait,
Oui?
c'est ça que ça veut dire.
Oui? Nos chairs, ça veut dire mordre. C'est-à-dire, c'est la livre de chair de Shakespeare.
Pourquoi les gens qui sont fait pour
Alors,
est-ce qu'ils sont libérés ou pas?
non, ça n'a rien à voir. Eux, ils sortent seulement à la mort du Kohen Gadol. Ils étaient en service quand ils ont tué par inadvertance.